plus de nouveaux commentaires maintenant qu'on a fini Yiddat HaTshuva. Mais bon, Bezrat Hashem, pour la rentrée après Pessah, j'ai prévu deux longues pages avec toute la structure de Yiddat HaTshuva. J'ai passé beaucoup d'heures pour faire ça, donc Bezrat Hashem, on fera ça tranquillement à la rentrée, après la fête de Pessah, quand on sera bien reposé après des vacances. Chacun a repris ses vacances pour se reposer matériellement, pour bien repartir spirituellement. Alors, je prends ma page ici. On a le... Voilà, ici. Donc, tout d'abord, la Noura Zaken, il commence le Yiddat HaTshuva par le mot Tanya. Comment ça se fait qu'il commence le mot Yiddat HaTshuva par le mot Tanya? Tanya, en hébreu, c'est en araméen, ça veut dire il a été enseigné. On sait qu'aujourd'hui, le livre, on l'appelle Tanya. En vérité, pourquoi on l'appelle Tanya? Puisque, si vous remarquez la première page, c'est écrit Tanya, Amar, Rabbi, Tanya, Bessop, Feregimel, Denida. C'est-à-dire, c'est le premier mot du livre. C'est pour ça, du coup, on l'a appelé Tanya. Et ça, c'est un peu bizarre, quand même. Parce que bon, c'est pas le... Je veux dire, Tanya, quand on voit la traduction du mot Tanya, Tanya, en hébreu, ça veut dire il a été enseigné. Donc, de mettre le nom d'un livre comme ça fait un peu bizarre. Si on le traduit en français, ça fait un peu bizarre. Comment ça se fait que l'Admor HaZaken rentre dans ce problème-là? D'accord? Alors, justement. Je vais expliquer la même chose qu'on avait expliqué quand on avait fait le premier cours sur le Tanya. Surtout que là, les choses se compliquent. Pourquoi? Puisque quand on dit Tanya, ça veut dire que c'est enseigné dans une Braïta. C'est-à-dire c'est enseigné par des Amoraïm, par des maîtres de la Gemara. Quand on dit Tnan, pas Tanya mais Tnan, ça veut dire que c'est enseigné par des maîtres de la Mishnah. Il y a une machloquette ici sur la Gemara que va ramener ici la Admor HaZaken, dans le premier chapitre. Il y a une machloquette entre les décisionnaires, est-ce que c'est une Mishnah ou est-ce que c'est une Braïta? Et la majorité pense que c'est une Mishnah. Donc il faut dire Tnan. Il y a seulement une version du En Yaakov, qui dit que non, c'est pas Tanya, c'est pas Tnan, mais c'est Tanya. Et l'Admor HaZaken, on dirait qu'il a envie de, il cherche les problèmes, tu vois. Et il t'écrit le mot Tanya. À la limite, ne dit rien. Pourquoi t'as besoin de rentrer dans les problèmes? Bonsoir. Oui? Ah, c'est de l'autre côté, mais il faut venir demain matin, je sais pas si j'en ai. Alors, donc l'Admor HaZaken, il pose la question, pourquoi l'Admor HaZaken, il a eu besoin de rentrer dans ce problème-là? Il a eu besoin de rentrer dans ce problème et de dire Tanya. Il aurait pu dire tout simplement, c'est écrit, c'est tout, pourquoi Tanya? Alors, il y a plusieurs explications. Une première explication, c'est que Tanya, c'est les mêmes lettres que Ethan. Ethan, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire fort. Vous connaissez le prénom Ethan? Ethan. Ethan, en hébreu, ça veut dire fort. Ça veut dire que pourquoi l'Admor HaZaken tenait à commencer les deux parties principales du Tanya par le mot Tanya, alors que là, en vérité, il s'est quelque part, excusez-moi du terme, il s'est pris la tête, parce qu'il est rentré dans une marloquette alors qu'il n'y a pas besoin. C'était en trop. Parce que c'est que l'Admor HaZaken sentait qu'en écrivant le mot Tanya, ça allait nous donner des forces. Parce que Tanya, c'est les mêmes lettres que Ethan. C'est une première explication. Il y a une deuxième explication, qui est plus profonde, qui dit que ça vient du Zohar. On dit que Tanya, c'est le nom d'une klipa, d'une force du mal, qui attaque particulièrement les érudits. Qui attaque les érudits et qui leur amène de l'orgueil. Vous savez, avec le temps, quand on commence à étudier, ben, on commence forcément à avoir un sentiment d'orgueil par rapport aux autres qui n'étudient pas. Chacun à son niveau. Même si je connais un petit peu, par rapport à d'autres qui connaissent rien du tout, je commence à avoir un petit peu d'orgueil. C'est comme ça, c'est naturel. Comment s'appelle cette klipa? Comment s'appelle ce mal? Le Zohar nous dit s'appelle Tanya. Et l'Admor HaZaken, dans les Yiddat HaTshuva, il va combattre en grande partie, comme on verra dans les résumés Bezrat Hashem après Pessah, il va combattre en grande partie l'orgueil. D'accord? Par exemple, là, de mémoire, il y a le chapitre 7, chapitre 9, plusieurs chapitres, et ça revient, c'est une leçon qui revient souvent, qu'il faut se casser, il faut pas avoir l'orgueil, etc. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle l'Admor HaZaken tenait à commencer le Tanya avec le mot Tanya. D'accord? Pour nous montrer que tout d'abord, on va prendre des forces, et deuxièmement, comme on a dit, on va combattre en grande partie l'orgueil. Puisqu'on part de la base qu'une personne qui est orgueilleuse ne peut pas faire ses choix. On sait, c'est connu dans les conflits. Tant que chacun reste sur sa position, donc quelque part il est orgueilleux, on ne peut pas faire la paix. Pour faire la paix, il y a forcément un ou les deux qui doivent lâcher. Tant que les deux sont orgueilleux, tant que les deux sont têtus, il n'y aura pas de shalom, il n'y aura pas de paix. Et donc c'est pour ça qu'on commence le Tanya avec le mot de cette klipa, pour nous dire que quand on veut faire teshuva, quelque part il faudra lâcher du lest, donc il faudra faire teshuva, il faudra arrêter avec l'orgueil. Bon. Maintenant on va développer un petit peu la Mishnah. On va avoir d'autres commentaires avec Bezrat Hashem qu'on n'avait pas fait dans le premier cours qu'on avait fait dessus. Alors, Moura Zaken nous parle ici, donc Tania Besof Yoma. C'est raconté à la fin de. Il y a une Mishnah qui dit. Enfin, c'est une braïta en fait, selon la de Moura Zaken, à la fin du traité Yoma. Shlosha Hiluke Kapara, il y a trois sortes de pardon. D'accord ? Donc ça, c'est le pshat. Trois sortes de pardon, ça veut dire qu'il y a trois catégories de fautes. Trois catégories de fautes. Ou Tshuvaim Kol Echad, et donc par rapport à ces trois types de pardon, il y aura à chaque fois une Teshuva qui correspond à chacun. C'est-à-dire qu'on va devoir catégoriser les fautes. C'est déjà un chidouche de catégoriser les fautes. Pourquoi je dis que c'est un chidouche? Puisque normalement, on a toujours appris que il n'y a pas de catégorie dans les fautes.
Messieurs,
bonsoir.
Bonsoir.
C'est moi, je vous interromps.
Tiens.
Dans votre cours. Merci, jeune homme.
Voilà. Bonne soirée. Donc, la question ce qu'on était en train de dire.
Bonne soirée,
hein. Bonsoir. Donc on a dit comme ça, la Dmora Zaken, déjà c'est déjà un grand chidouche, c'est déjà une grande nouveauté, c'est avec nous du sportif, page 180. C'est déjà une grande nouveauté que de catégoriser les Averot. D'accord ? Comment on peut catégoriser les Averot ?
Je peux acheter des gauches Mora Kilo ?
Je sais pas si j'en ai fait. Appelle mon père. Moi j'en ai pas ici. Il est pas là-bas. Mais appelle-le.
D'accord,
c'est
pas mal.
Ok ?
Merci.
Allez. Pas de problème. Oh, Hachem, c'est le. Il y a des gens qui veulent faire des mitzvotes. Donc, j'étais en train de dire. Ça y est, ça rare, oui, certains d'entre vous.
Tu veux dire, est-ce que c'est cher, c'est l'émanation du Yitzhara ou
Yitzhara? Ah oui, quelqu'un qui vient pour vous demander des matzot shmorot pendant qu'on est en train d'étudier. Est-ce que c'est Yitzhara ou Yitzhara? Hein, qu'est-ce que t'en penses, Youssef? Voilà, s'il te passe, t'inquiète pas, c'est pas grave, s'il vient, celui qui vient, il vient, c'est après Pessah, si tu veux, on redémarre tranquillement. Je suis en train de dire que il y a le fait même qu'on commence déjà à catégoriser les Averot, c'est déjà particulier. Pourquoi c'est déjà particulier? Puisque normalement, on sait que faire une Avera, c'est aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence, peu importe ce que j'ai fait. Si j'ai pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est grave ce que j'ai fait. Comment ça se fait que la Mishnah est en train ici de catégoriser la Averot? J'avais donné un exemple une fois, j'ai dit, c'est comme si par exemple un roi a demandé, bonsoir, il a dit, je veux qu'on me construise un palais. Et il a donné exactement les mesures, les peintures, d'accord? Il a tout donné. Bonsoir. On fera le résumé après Pessah. Voilà, parce que bon, personne n'a pu venir. Donc j'ai dit, il y a un roi. Non, c'est mon livre. Il y a un roi qui voulait construire un palais. Il voulait construire un palais. Donc il a donné des ordres. Il a donné des ordres très précis. Combien de chambres il doit avoir, quelle peinture il doit avoir, etc. Bon. Maintenant il va arriver, il va voir qu'on n'a pas fait exactement comme il voulait. Par exemple, la peinture n'était pas comme il voulait. Les carrelages n'étaient pas comme il voulait. Le nombre des chambres n'était pas comme il voulait. La taille n'était pas comme il voulait. Ce qu'on explique en Chassidut, c'est que peu importe le détail qui manque, si on n'a pas fait la volonté du roi, on n'a pas fait sa volonté, c'est tout. Et il sera énervé, même si c'est une nuance de couleur de peinture qui manque. Il dit, c'est pas ce que je voulais. Donc comment ça se fait que ici, vous allez voir, on va commencer à catégoriser les Averot. On va dire qu'il y a plusieurs catégories d'Averot. Alors ce qu'on va expliquer dans la suite, c'est qu'en vérité, c'est pas qu'on veut catégoriser les Averot et dire qu'il y a des Averot qui sont moins graves que d'autres. Ça n'existe pas chez nous. Ce qu'on veut simplement expliquer, c'est par rapport aux dégâts qu'une Avera va causer. Qu'il y a des Averot qui causent un dégât plus grave que d'autres. On va expliquer ça tout de suite dans les mots. Donc, Shlosha Hiluke Kapara, on a repris le... J'ai repris, on a fait de nouveaux commentaires de Tachem. On reprendra... Voilà. Shlosha Hiluke Kapara, page 180. Ou Tshuvaim Kol Echad, et il y a une Teshuva qui correspond à chacun des trois. Première catégorie. Avar al mitzvat ase veshav. S'il a transgressé une mitzvah positive, quel exemple vous vient à l'esprit quand je dis une mitzvah positive?
Il a pas mis les
téfilis. D'accord. Veshav, il a fait teshuva. Ça veut dire quoi, il a fait teshuva?
Il les a mis deux fois le lendemain.
Ah, attends. Ah oui, ça veut dire quoi, il a fait teshuva?
Je sais pas.
Il qu'il les mettra tout le temps.
Comment vous
comprenez? Il peut pas faire teshuva.
Quelqu'un a oublié de mettre les téfilis.
Il peut pas rattraper.
Et il a fait teshuva. Ça veut dire quoi, faire teshuva?
Il a regretté.
Regret, c'est tout?
Il a regretté.
Faire teshuva, ça veut dire prendre les dispositions pour ne plus que ça arrive. Par exemple. S'il avait l'habitude de mettre les tefillines à 5h de l'après-midi et qu'il a raté une fois à 5h de l'après-midi, bah, dorénavant, je les mettrai le matin. Ouais, c'est ça une teshuva. Enfin, je dis, je suis désolé, Non, c'est pas seulement, je suis désolé. Quelle disposition tu prends pour pas que ça arrive? Bon. Donc il a fait teshuva. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et nos asbicham a fait mochalim. On dit, il n'y a pas de problème. Il bouge pas jusqu'à qu'on lui pardonne. C'est-à-dire qu'on lui pardonne sur place. Le pardon instantané. Pardon instantané, ça veut dire teshuva instantané, pardon instantané. Parce qu'on verra après qu'en vérité, c'est en deux phases. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai demandé pardon qu'on doit m'excuser. Vous comprenez? Donc, quand j'ai transgressé une mitzvah positive, le pardon et la teshuva sont en même moment. C'est-à-dire, je demande pardon, on pardonne tout de suite. Après, ça complique. Ava, d'accord, al mitzvat lota. S'il a transgressé une mitzvah, tu suis dans les pages là, en, là tu suis 180. Avar al mitzvat lota assez. Si maintenant il a transgressé une mitzvah négative, veshav, et il a fait teshuva. D'accord. Donc il a fait teshuva. Ça veut dire quoi? Donc, c'est quoi l'exemple du musée négatif?
Tu me ranges la page.
Alors en passant, j'ai vu un commentaire qui dit, ça veut dire quoi? Hein, avant de passer le test de musée négatif, comment vous avez compris quand c'est écrit que la Mishnah nous dit qu'il ne bouge pas de la bâche lorsqu'on lui pardonne? S'il a transgressé une mitzvah positive, il ne bouge pas de la bâche qu'on lui pardonne. C'est-à-dire quoi, il ne bouge pas de la bâche? Putain, il est allé où?
Soit il peut exiger qu'on lui pardonne.
C'est-à-dire quoi, il ne bouge pas de la bâche? C'est-à-dire quoi, ne pas bouger?
C'est-à-dire qu'il ne change pas de pas bouger, c'est-à-dire ne pas changer sa pensée pour autre chose. Jusqu'à qu'il prenne le sur soi de.
Mais c'est-à-dire quoi, il ne bouge pas de là-bas?
De sa réflexion.
Alors, la Gemara explique comme ça. Il y a un commentaire dans la Gemara qui dit comme ça. La Gemara Yoma, la Gemara elle nous dit là-bas, elle dit, Echidami Baal Teshuva. Elle dit, c'est quoi un Baal Teshuva? Il dit, si une personne, on lui a proposé une Avera. Une Avera, qui c'est qui craquait d'habitude? On lui a proposé une première fois. Il a tenu. D'accord? Une deuxième fois. Il a tenu. D'accord? Il y en a qui disent qu'il faut une fois, il y en a qui disent qu'il faut deux fois. Ça veut dire que par exemple, il faisait certaines Averas. La Avera lui a été proposée une première fois, il n'a pas craqué. Une deuxième fois, il n'a pas craqué. Là, la Gemara dit, là, ça s'appelait une teshuva. Alors, il y en a qui expliquent que ça veut dire quoi quand on dit que celui qui a transgressé une mitzvah positive, il ne bouge pas de là-bas, chose qu'on lui pardonne. Ça veut dire quoi, ne pas bouger? Ça veut dire que il doit repasser par la même situation et ne pas bouger. Ne pas bouger, ça veut dire faire vraiment ce qu'il a promis. Ça veut dire, je refauterai pas. Et là, c'est une teshuva qu'on accepte.
D'accord.
Vous comprenez?
Je fais deux fois.
Oui. Ça veut dire le sens de ne pas bouger, ça veut dire quoi, ne pas bouger? Ne pas bouger, ça veut dire que ne pas bouger de la décision qu'il a prise au moment où il a regretté. On dit, d'accord, t'as regretté, pas de problème, ne bouge pas, reste là. On attend le prochain coup. Vas-y, tu vas rester à la même position? Mais si t'as pas bougé, pas de problème, on accepte tes chouvins. Il y a une marloquette là-bas dans la Gemara, est-ce que pour nous tester, il faut attendre une fois ou deux fois? Parce qu'on peut dire qu'une fois on a réussi à se retenir, mais la deuxième fois, il va déjà nous prendre. Quoi qu'il en soit. C'est ça ce que veut dire Einozaz Misham, qui ne bouge pas de là-bas. Ne pas bouger, ça veut dire que, on attend qu'il fasse ses preuves. On attend qu'il nous montre que, on lui a représenté la même chose, et qu'il a quand même pas craqué. D'accord. Ça c'est pour une mitzvah positive. Si maintenant une personne a transgressé une mitzvah négative, qu'est-ce que t'as donné comme exemple, Yves? C'est quoi transgresser une mitzvah négative? Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux donner un exemple?
Moi, je peux donner.
Vas-y. Une mitzvah négative. Comment il a transgressé une de négative? C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Est-ce que pour transgresser une mise à négative, on est obligé de faire quelque chose?
Ah oui. C'est le contraire de la mise à positive où tu peux ne pas faire. Ou tu ne fais pas.
Je repose ma question. Est-ce que pour transgresser une mise à négative, on est obligé
de faire une action?
De faire une action.
Bah, il me semble que je vois pas de cas. Tu ne feras pas et tu fais. C'est quoi négatif? C'est-à-dire que tu ne dois pas faire une chose et tu l'as fait.
Alors, par définition, une mitzvah négative, c'est important de comprendre ça parce qu'on va l'expliquer dans la suite, est toujours associée à une action.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'une mitzvah positive n'est pas forcément associée à une action. Transgresser une mitzvah positive, c'est pas forcément associée à une action. Peut-être oui, peut-être non.
Au contraire, ne pas faire,
Peut-être oui, peut-être non. Peut-être j'ai fait autre chose, peut-être pas. D'accord? Par exemple, mettre les tefilines. Ben, quand j'ai pas mis les tefilines, j'ai pas fait d'action. Donc c'est pas associé à une action. Alors qu'une mitzvah négative, c'est toujours, transgresser une mitzvah négative, c'est toujours associé à une action. Parce que toujours transgresser une mitzvah, ça veut dire faire le contraire de ce qu'on t'a demandé. Donc si on me demande de faire quelque chose, faire le contraire, ça veut dire ne pas le faire. Et si on me demande de ne pas faire quelque chose, le contraire, c'est le faire. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que par rapport à ça, on va comprendre comment ça se fait que la capara d'une mitzvah négative est plus difficile que la capara d'une mitzvah positive. Parce que, Quand je vais me faire pardonner sur une mitzvah positive, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ?
Rien.
Le contraire de faire, c'est ne pas faire. Donc j'ai pas fait. J'ai rien fait. D'accord ? C'est vrai que j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Concrètement, il n'y a rien qui s'est passé. Alors que lorsque j'ai transgressé une mitzvah négative, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, j'ai fait. Donc là, j'ai fait un dégât. Vous comprenez que ne pas faire une course quand on t'a demandé de la faire, et d'un autre côté, aller faire une bêtise, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'un est plus grave que l'autre. On parle du dégât. Le dégât est beaucoup plus grave quand il s'agit d'une mitzvah négative. C'est la raison pour laquelle la teshuvah d'une mitzvah négative est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah ici ? Teshuvah tola veyam akipurim mechaper. Dans ce cas-là, la teshuvah, elle, est suspend. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que je demande pardon qu'on m'excuse. D'accord ? Ça veut dire comme ça. Des fois, des gens, ils s'excusent. On dit, attends, tu t'excuses ? On va voir. On va voir, je t'excuse, et ça y est. Non, on va voir. On va attendre. On va attendre quelques jours, et quand on verra que t'es sincère, c'est là qu'on va t'excuser. Alors ça, c'est pour une mitzvah négative. Le dommage, le dégât est tellement fort, que Kadosh Baruch Hu, je peux pas te pardonner comme ça. Mais d'abord, j'attends de voir que t'es vraiment sérieux. Et pour ça, on va attendre jusqu'à Yom Kippour.
Yom Kippour, ou bien que ça se représente ?
Non. Pour ça, d'abord, ça se représente, ça c'est sûr. Comme tout, ça c'est sûr. Mais ça, c'est numéro 1. Ça, c'est pour me montrer que tu t'es excusé. Mais c'est pas pour autant que je t'ai excusé. Parce que c'est deux choses différentes. C'est pas parce que je me suis excusé qu'on va m'excuser. On est d'accord ? Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Gemara ? Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, Tshuva Tola, la Teshuva suspend, Ve Yom Kippourim Mechaper. Et le Yom Kippour, le jour du Yom Kippour, va pardonner. Pourquoi le jour du Yom Kippour et pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui se passe si une personne a fauté la veille du Yom Kippour ?
Voilà ce que j'allais dire. Finalement, c'est... Hein ?
Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi Yom Kippour ? Si vous en pensez, c'est vrai, pourquoi Yom Kippour ? Si tu me dis par exemple, moi, pour moi, ça m'aurait paru plus logique de dire, bon, un an plus tard, on te pardonne. Tu vois ?
Oui, au moins,
voilà.
Il y a une durée.
Il y a une durée qui veut dire quelque chose.
Quand
tu es sur place, il faut que tu nous prouves que tu veux plus recommencer. Et un an plus tard, si vraiment tu n'as pas recommencé, on te pardonne.
Et peut-être même que tu n'as même pas le temps de se recommencer que Yom Kippour.
Bah oui, là c'est quoi cette histoire ? Une personne qui a fauté la veille de Yom Kippour. On lui pardonne tout de suite. Comment ça se fait ? Alors le rabbi explique comme ça. Il dit parce qu'en vérité, la particularité de Yom Kippour, c'est qu'en vérité, quand on a transgressé une mitzvah positive, normalement, on ne devrait pas être ordonné.
Positive ou négative ?
Négative.
Oui.
Positive, on a dit, j'ai rien fait.
Même parce que tu disais positive. Négative.
Quand j'ai transgressé une mitzvah positive, j'ai rien fait, donc on me pardonne facilement. Mais quand j'ai transgressé une mitzvah négative, c'est-à-dire j'ai cassé quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal, normalement, rien ne devrait pouvoir me pardonner. On est d'accord ? Ah, pourquoi je suis pardonné ? Je suis pardonné uniquement grâce au fait que c'est Yom Kippour. Puis Yom Kippour, on arrive à un jour qui est plus haut que la Avera. C'est la raison pour laquelle, comme ça explique le Rabbi, c'est la raison pour laquelle, quand on a transgressé une mitzvah négative, on doit d'abord décider bien sûr de ne plus recommencer. Ça c'est pour prouver que je m'excuse. Et c'est pas pour autant qu'on pardonne, parce que c'est grave ce que j'ai fait. Quand est-ce qu'on va me pardonner ? Il faut attendre un jour qui est plus fort que la Avera. Le seul jour dans l'année qui est plus fort que la Avera, c'est Yom Kippour. Bon. Maintenant, il y a certaines avérotes qui ne sont pas aussi, il y a certaines avérotes pour lesquelles même Yom Kippour n'est pas plus fort que cette avéra. C'est l'avérote sur laquelle on est chayav, karet. Non, pas mita, karet, c'est pas la même chose. Mita, c'est la mort. Bon, la mort, c'est la mort. Ça, on va voir que c'est pas la même chose. Mm-hmm. Alors, dans les mots. Déjà, la Morazaken ouvre une parenthèse importante.
Pourquoi tu dis pas chayav mita ? Chayav mita n'a pas été pardonné par Yom Kippour.
J'ai pas parlé chayav mita encore. On va parler de chayav karet. C'est une bonne question ce que tu poses. Pour l'instant, on n'a pas parlé de ça encore.
Par exemple, Khayef Karet.
Par exemple, celui qui a mangé du Khamet, ça fait ça. Par exemple. Donc on a déjà deux catégories. Mitzvah positive, mitzvah négative. Standard. Mitzvah positive, je m'excuse sur place, on me pardonne sur place. Mitzvah négative, je m'excuse sur place, je fais mes preuves dès que possible, et on me pardonnera un jour qui est plus fort que la vera, qui est le jour de Yom Kippour. On dit, l'Admor HaZaken, il ouvre la parenthèse, page 180, il dit, celui qui lit, c'est bien de comprendre ça, parce que vous verrez qu'après ça, Bezrat HaShem avec le résumé, ça correspondra. Celui qui lit ça, il va comprendre, qu'est-ce qu'il comprend tout de suite, que qu'est-ce qui est plus grave entre une mitzvah positive et une mitzvah négative ? C'est la mitzvah qui est négative. D'accord ? On est d'accord, c'est ce qu'on comprend d'ici. Que la mitzvah négative est plus grave. Pourtant, on a des sources contraires. On a des preuves du contraire. D'accord ? Dans lesquels on voit clairement que selon la Torah, une mitzvah positive est plus importante qu'une mitzvah négative.
Quand tu parles de la mitzvah, c'est les dégâts que fait.
D'accord, seconde.
Qui sont plus importants.
J'ai compris, mais là concrètement, quand on lit cette Mishnah.
Mais tu comprends que ce sont les dégâts.
Ah non. Moi, pour moi, Pour moi, je vois le, ce que tu me demandes pour réparer. Si pour réparer une diapositive c'est plus facile, ben ça veut dire qu'apparemment c'est moins important. Je, c'est la question qui attend, on va développer. Donc dis la de Morazakan, il développe. Il dit, pirouche, ça veut dire, afalgav, bien que, deleinian mitzvat asé, deleinian kiyum mitzvat asé, que lorsqu'il s'agit d'accomplir une mitzvah positive, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Asé, gdola, shedocha, et lota asé. De manière générale, on a un principe dans la Torah qui nous dit qu'une mitzvah positive est toujours plus importante qu'une mitzvah négative. Est-ce que vous avez des exemples? Qu'une mitzvah positive repousse la mitzvah négative. On a pris il n'y a pas longtemps dans le Gemara Brochot. Alors vas-y, donne-nous
l'exemple. Le mort là, en terrain.
Vas-y, donne-nous l'exemple, oui. Donne-nous l'exemple.
Je cherche justement le mort, celui qui est perdu dans le champ.
Oui.
Et
le Cohen, par exemple.
Oui, vas-y, voilà, le Cohen, oui, vas-y.
Le Cohen, il a l'obligation, s'il n'y a pas d'autres personnes d'enterrer, de l'enterrer.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres.
Parce que la mitzvah positive repousse. Donne-moi un exemple plus simple encore, un exemple qui peut nous arriver tous les jours.
Shabbat, si on transgresse Shabbat.
Non. Un exemple d'une personne qui. Une mitzvah positive qui repousse les mitzvahs négatives. Vous avez des exemples?
Ne pas manger cachère.
Ne pas manger cachère?
Oui.
Oui, pourquoi?
Si je suis en danger de vie ou de mort, et que je suis, par exemple, dans un désert, je suis exempté de cette.
Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas une mitzvah positive qui remplace une mitzvah négative. Il n'y a pas de.
Une
mitzvah
de vie.
Moi, je veux un cas dans lequel il y a un conflit entre une mitzvah positive et une mitzvah négative.
Le Cohen, c'était le cas.
Oui. Alors, on a le cas du Cohen, c'était le Cohen et le cimetière. Oui, vas-y, rappelle-nous le cas qu'on a dans la Gemara. Vas-y. On a fait dans la Gemara, voilà.
C'était la mer. C'était la mer.
Le Cohen, il va entrer dans un cimetière.
Oui,
c'est quoi, cool, raconte-nous le cas.
Non, c'est pas, je pensais pas à ça, moi je pensais aux morts. Je pensais aux morts.
Pour aller voir le roi?
Non, je pensais aux morts qui étaient perdus dans le champ.
Oui, d'accord.
Et il se trouve que celui qui passe doit circoncire son fils. Ou... Mais ça, c'est mitzvah positive contre mitzvah positive.
Bah oui, moi je veux une mitzvah positive contre une négative.
Celui par exemple, l'exception faite à la trouvaille, par exemple. Je peux ne pas rendre l'objet.
Ouais, c'est pas une, c'est jamais une mise positive contre une négative.
Le Cohen, par exemple, qui est à la proche du cimetière et qui peut voir à l'intérieur un objet perdu.
Très bien.
Et n'est pas tenu.
N'est pas tenu parce que il a une mise positive de pas être d'accord. D'accord. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez l'exemple. Une Brit Mila qui tombe Shabbat.
C'est pas tous les jours.
D'accord. Attends. Une Brit Mila qui tombe Shabbat. Je te mets là qui tombe Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de se faire une blessure. Donc c'est une mitzvah négative. D'un autre côté, Shabbat, on a une mitzvah de faire la brit mila. Enfin, on a une mitzvah de faire la brit mila au huitième jour. C'est quoi le din? La Torah n'a même pas besoin de donner un pasouk pour ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir un pasouk particulier pour nous apprendre qu'il faut faire la mila Shabbat. C'est pas chou, c'est évident. Comme je sais que la Torah m'a dit qu'il faut faire au huitième jour, donc la mitzvah positive repousse de facto la mitzvah négative. D'accord?
Et pourquoi elle...
Un autre exemple. Le service du Beth Amikdash.
Le sacrifice.
Oui, le chauffard, tu as raison. Le chauffard devrait sonner, c'est interdit par le Khamim.
D'accord.
C'est une autre question, ça.
Le sacrifice.
La Torah n'a même pas besoin de me dire que c'est permis. C'est évident. Parce qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Pourquoi? Le rabbi explique la manière suivante. Il dit parce que dans la Torah, l'action prime toujours sur la non-action. Ça, la logique est derrière. C'est-à-dire, quand j'ai un choix entre faire et ne pas faire, faire passe toujours avant. C'est ça, la logique.
Attention. Dans ce cas-là, je comprends faire, parce qu'il y a de l'action positive.
Bien sûr.
Ce que tu disais,
bien sûr.
C'était de l'action qui... C'était aussi de l'action, mais l'action négative.
J'ai compris. Je te dis, c'est quoi la logique qui est derrière?
Oui, mais entre faire et pas faire. Là, il y a faire bien et faire mal.
Non. Non, attention. Là, j'ai le choix entre ne pas transgresser le Shabbat,
oui.
D'accord, ou entre faire une mitzvah.
Non, mais tu prenais...
Ça veut dire entre ne pas embêter quelqu'un et entre faire quelque chose de bien. La Torah veut toujours se focaliser sur l'action. Mais c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pasouk pour nous le dire. C'est ça que je veux retenir. Il n'y a même pas de pasouk pour nous l'apprendre. C'est pas chou. C'est un clac qui est pas chou. Comme ça. Assez d'ochre et l'autre assez. C'est un principe qu'on a toujours. Quand la Torah me demande de faire quelque chose, tant qu'elle m'a pas mis l'exception, ça veut dire que je dois le faire, hein, c'est tout. Ça veut dire comme ça. Vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Je dis, va m'acheter ça. Tant que tu l'as pas donné une exception, il s'occupe pas. Il prend le premier magasin, il rentre, il achète. C'est ça ce qu'on veut dire. Tant qu'il n'y a pas d'exception, tu ne te prends pas la tête. Si la Torah te donne une exception, là tu fais l'exception.
Donc on voit bien de ça que
la... Donc on voit de ça que dans la Torah, contrairement, comme explique le Rabbi, contrairement à d'autres religions dans lesquelles c'est centré sur la non-action, ça veut dire sur le fait qu'il faut se priver, il faut se séparer, etc. Donc c'est centré sur la non-action. Moins on en fait, je veux dire, moins on en fait dans le matériel, mieux c'est. Dans la Torah, c'est le contraire. Quand il y a le choix entre faire et ne pas faire, on va te dire il faut faire. Vous voyez ce que la logique est derrière, c'est une logique qui est très profonde. Alors, dans les mots, donc, dit le Rabbi, bien que de manière générale, accomplir une mitzvah positive, c'est gdola shedochet lo ta'aseh. On sait que la mitzvah positive, c'est toujours plus important que la mitzvah négative. Pourquoi? Parce que je viens de dire que quand j'ai un conflit entre une mitzvah positive et une mitzvah négative, qui c'est qui va gagner? C'est la mitzvah. Quand j'ai un conflit, c'est la mitzvah positive. Donc ça veut dire que quelle mitzvah est la plus importante?
Excuse-moi, est-ce qu'on peut faire le cours de l'arrêt froid de...
Vas-y.
Igdal Shimon ben Miriam.
Igdal Shimon ben Miriam, bien sûr. Fois Shlema de Igdal Shimon ben Miriam. Alors, je suis en train de dire, qu'est-ce qui est plus important entre mitzvah positive et mitzvah négative? C'est la mitzvah positive. Alors, dans ce cas-là, comment ça se fait que la teshuvah sur une mitzvah positive est beaucoup plus facile qu'une mitzvah négative? Alors que la mitzvah positive est censée être plus importante puisqu'elle repose sur la mitzvah négative. D'accord? Ça, c'est la question qu'il pose. Non, maintenant, on comprend bien la question. Alors, on nous dit, l'Admor HaZaken, par ça, le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, il explique, il dit, comment ça se fait que, c'est quoi la logique qu'il y a derrière? Il va encore plus loin. Qu'une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative. Il dit, parce que, mitzvah positive, le fait d'agir, c'est lié à Rachamim, à la miséricorde. Alors que mitzvah négative, c'est lié au Din. C'est-à-dire qu'il y a le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et le Din d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a un choix entre le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu et le Din d'Akadosh Baruch Hu, il faut toujours choisir le Rachamim. C'est la raison pour laquelle mitzvah positive, elle repousse sur mitzvah négative. Donc, dans ce cas-là, comment ça se fait que la mitzvah positive ici était plus facile à se faire pardonner que la mitzvah négative? On a dit, quand j'ai transgressé la mitzvah positive, il a pas mis les tefillines, sur place on le pardonne. Mm-hmm. Alors que sur la mitzvah négative, qui apparemment est moins importante...
On a l'impression que c'est dans l'autre sens.
On a l'impression.
C'est forcément.
Oui.
On parle de la mitzvah et on parle de sa transgression. La transgression, c'est l'opposé de la mitzvah.
J'ai compris.
Si la mitzvah positive, c'est l'action, la transgression, c'est l'inaction.
Mais c'était plus important. J'ai compris ce que tu veux dire.
Jusque-là, c'est logique.
C'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus grave. C'est plus important. C'est-à-dire, j'ai transgressé quelque chose de plus important. Qui était plus grave.
C'est ça.
Donc c'est pas logique. Au moins il devrait être au même niveau. Au moins. C'est le minimum. Parce que c'est plus grave, c'est une musique qui est plus grave. Alors on nous dit la Admor HaZaken, à Inu Mishum, c'est parce que Shal Yede Kiyum Mitzvat Ase, en faisant une mitzvah positive, Mamshir Or Veshefa Beolamot Adini. En faisant une mitzvah positive, on amène une lumière et une énergie dans les sphères célestes. Mais arrête en ça par contre. Là, le Morazaka me dit un chidou. J'ai dit, nous on croit quand on fait une mitzvah, que c'est pour moi. Je suis en train de ramasser un mérite. J'ai un mérite de plus, et quand j'arriverai en haut, on me dira, voilà, t'attends un temps de mérite. C'est ça ce qu'on croit. Maintenant qu'on a étudié le dernier chapitre, et qu'est-ce qu'on a expliqué dans le dernier chapitre? Vous vous rappelez le concept de l'ombre qu'on a expliqué dans le dernier chapitre? On a dit que quand c'est que dans l'ombre, qu'est-ce qu'on va, tu te rappelles, Youssef? On expliquait avec l'ombre? Vas-y, dis-nous.
L'exemple de l'ombre, c'était quand tu bougeais.
Oui. Quand on voit un petit mouvement en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois un petit mouvement de l'ombre,
ouais.
Quand je vois l'ombre qui va avancer d'un centimètre, en vérité, si, étant donné qu'on sait que le soleil est très très loin, ça témoigne d'un grand mouvement du soleil. C'est-à-dire qu'un petit mouvement en bas correspond à un grand mouvement en haut. D'accord. Alors pourquoi on nous dit ça? Pour nous expliquer que nous, on fait des mitzvot, on croit qu'on fait rien du tout. Quoi que pour nous, on fait rien du tout. Moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, fais ça, t'auras un mérite de plus, on verra en haut. Il n'y a pas de problème, on verra en haut. Mais moi, je vois rien. Je ne vois pas que j'ai fait quelque chose. Moura Zaken a expliqué dans le chapitre 12 que lorsqu'on fait une mitzvah, en vérité, on fait des choses extraordinaires. Parce que l'ombre, c'est valable des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je bouge un petit peu, mais quand il y a la distance, on sait que quand il y a une distance, quand je bouge un tout petit peu, en haut, dans la distance de des milliers de kilomètres, le mouvement est énorme. On le sait, ça. D'accord? Donc pourquoi l'Admor HaZaken nous avait expliqué ça? Pour nous montrer qu'on ne peut pas se rendre compte ici-bas de l'impact de nos mitzvot et de nos averot. Et c'est pour ça que le plus grand salaire et la plus grande punition qu'on aura plus tard, c'est qu'on nous montrera simplement, dit voilà, tu vois, t'as bougé un petit peu, voilà ce que t'as fait en faisant une mitzvah, voilà ce que t'as fait en faisant une avera. D'accord. Pourquoi il nous dit ça l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken veut nous dire ça pour expliquer que quand on fait une mitzvah, que tout le monde demande de faire une mitzvah, nous on croit que quand je fais une mitzvah, je ramasse un mérite. L'Admor HaZaken ne fait pas du tout. Quand tu fais une mitzvah, tu es en train de générer une lumière, tu es en train de générer un mouvement comme il dit ici dans les mots, Même Shir, je vais dire dans les mots, maintenant on va comprendre. Or Veshefa Beolamot Elyonim. On est en train d'amener la lumière et de l'énergie dans les sphères célestes. Pourtant je le vois pas. C'est pas grave si je le vois pas. Je fais quelque chose de grand, je le vois pas. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que c'est l'ombre. Je bouge un petit peu moi ici-bas. L'ombre bouge un tout petit peu, mais en vérité en haut, il y a un mouvement énorme. Que moi, Shekatou Bezoar, Deramar, Pikudin, Inu, Remar, Evarim, Demalka. Le Zohar nous explique que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend. Vous avez déjà entendu cette phrase? Que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu? Dans le Patach Eliyahu.
De nous, mais pas de vous.
Tout s'écrit. Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, Bamar, Ibon, Almin, dans le Patach Eliyahu derrière. Je vais vous montrer. Quelle page pour ceux qui le lisent?
7.
Patach Eliyahu Vamar. Je vais vous montrer. Allez, Tikkun Chatzot. Voilà, Patach Eliyahu.
Page 58.
Page 9. Ah, c'est pas loin.
58, c'est 348 mots du lecteur.
Alors regardez.
48 organes du de
l'homme. Qui c'est?
Du Skivaski de
l'homme. J'ai pas compris. Les? Oui, je parle, moi je parle des 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Mais membres de l'homme?
Ouais, mais c'est pour ça que c'est le
schéma. Oui, d'accord.
Mais ça c'est le schéma. Ah, c'est le schéma ça?
D'accord. Il parle du bâtard.
On a regardé des mal. Voilà. Une remarque de Malka. Ah, attendez, je vais avoir. Passe-moi un patach. Un latéchin, s'il te plaît.
J'ai vraiment du mal avec le
patach. Je voulais vous montrer dans le patach Eliyahu directement. Moi, je le lis avant le. Avant Arvit, de Shabbat. Une remarque de Malka. Voilà. Attends. C'est écrit Inun Rema Revarim de Malka. Quand on cherche, qu'on ne trouve pas. Hein. Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Allez. Si, c'est dans le. C'est pas grave. Allez.
C'est Rabbi Shimon qui dit ça?
Oui, c'est dans le Zohar. Ok. Alors, on dit en tout cas dans le Zohar, le Zohar nous dit la chose suivante. Voilà. Tikkun et Zohar, Tikkun Lamed. C'est là-bas, en tout cas c'est dans cette section, ça c'est le Tikkun et Zohar. Rema Revarim, Inu Rema Revarim de Malka. C'est bizarre, il est là. Bon, ouais, c'est pas grave, allez. On passe par là. Ah, c'est pas grave. Ok.
En fait, c'est pas grave, mais ça t'embête.
Ouais, ça m'embête parce que je croyais qu'il était là.
Ça doit suivre, il a pas envie de voir une suite qu'on ne lit pas, c'est ça, non?
Attendez, c'est quoi? Non, ouais, c'est pas grave. Ok. En tout cas, le Zohar nous dit, c'est dans le Tikkun, c'est ça, c'est Tikkun et Zohar, page 17, c'est pas loin, quoi, c'est à côté. D'accord. Il dit là-bas la chose suivante, il dit que les 248 membres de l'homme correspondent aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? C'est quoi pour vous les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi? Et que, apparemment, chaque mitzvah qu'on fait correspond à 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Avec le concept qu'on a expliqué, on comprend. Le concept de l'ombre. Que chaque mitzvah que nous on fait correspond à un concept, il y a un concept qui correspond à cette mitzvah qui est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement qui se passe dans les sphères célestes que nous on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et que moi je fais une petite mitzvah, pour moi je crois que cette mitzvah est insignifiante, mais en vérité cette mitzvah est en train de, le concept de cette mitzvah est en train de se passer dans les sphères célestes, mais à une échelle rien à voir beaucoup plus grande. Et c'est ce qui explique le fait que ma mitzvah correspond à une autre mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand chez moi un petit mouvement, il y a un grand mouvement qui se passe qui concerne toute l'humanité. C'est ce qu'il dit ici dans les mots. Comment je ketuv bezohar, vous avez dans les mots des remar pikudin inun remar evarim de malka. Ah, c'est pas là, hein. Non, c'est pas là. C'est dans le Zohar là-bas, c'est quelque part. Un tikkun ezohar. Cherche la référence dans le tikkun ezohar, tikkun lamed. C'est à côté, c'est pas loin là-bas. Donc il dit comme ça, que moi je ketuv bezohar, comme le Zohar nous dit, des remar pikudin inun remar evarim de malka. Que les 248 membres d'un homme, les 248 mitzvot correspondent à 240, aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi il explique comme ça. Il dit qu'en vérité, il y a une chaîne qui est composée de trois maillons. Il y a les membres d'un homme, les mitzvot et les membres d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Ça veut dire comme ça. Des fois, il y a des tzadikim, on va les voir, on dit voilà, on a un problème au bras, on a un problème au pied, etc. Et tu dis il faut faire telle mitzvah. Ça veut dire qu'on a la emouna qu'à chaque mitzvah, il y a un membre qui lui correspond. Et c'est les tzadikim qui savent, par rapport à chaque personne, quel membre correspond à quel mitzvah. Un livre comme ça de Shlomo Améler. Un livre ?
Oui, il y a un livre de guérison de Shlomo Améler, mais que...
Qui a été, on l'a plus, c'est des vomis. Rami l'ont caché. Donc, mais le problème, c'est que c'est pas la même règle chez tout le monde. Il y a des gens chez qui telle mitzvah correspond à la main, d'autres personnes chez qui... Ah bah oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut les tzadikim. Sinon, c'est trop facile.
Non, parce que... On...
Ah bah, savoir... c'est pas de l'acupuncture.
Déjà,
hein.
On sait pas, déjà.
Oui, déjà, on sait pas.
Déjà, on sait pas.
Alors. Donc on a une chaîne qui est composée de trois maillons. On a le corps de l'homme, 248 membres de l'homme. D'accord ? On a les 248 mitzvot qui sont donc étroitement liés puisque les mitzvot sont étroitement liés aux 248 membres de l'homme. Mais on a également 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu ? C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est que chaque fois que moi je fais une mitzvah ici-bas, tout d'abord c'est bénéfique à mon corps, à mes 248 membres. Mais à part ça, la même mitzvah que je vais faire avec l'effet de l'ombre va se passer, mais à une échelle énormément plus grande, Dieu en effet miroir va refaire le même concept en haut. C'est ce qu'on appelle les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la mitzvah que je fais, et Dieu préserve la vera que je fais, est répliquée tout de suite en haut. Mais à une échelle énorme, beaucoup plus grande. Pourquoi la Gemara Zaken explique ça ici ? Pour nous expliquer qu'une mitzvah positive est très importante. Parce que quand je fais une mitzvah positive, je suis en train de générer un mouvement énorme en haut. Bien sûr que moi j'en profite. Mais à part ça, dans la chaîne qui est composée de trois maillons, je suis en train de générer un mouvement extraordinaire en haut. Et pas seulement ça. Pas seulement en haut. Vegaman la pshoa elokit. C'est la chaîne, donc c'est le fameux système des trois maillons que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'en faisant une mitzvah, tout d'abord c'est bénéfique pour moi, Maneshama, pour les 248 membres de mon corps, de Maneshama, mais c'est aussi bénéfique pour les sphères célestes. Alors, d'après ça, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'une mitzvah positive est plus importante qu'une mitzvah négative. Pourquoi ? Puisqu'une mitzvah positive permet de faire un mouvement qui est très important. Et à tel point qu'il est important, c'est pour ça que la mitzvah positive est plus importante que la mitzvah négative. Comment ça se fait qu'on a vu que dans la Mishnah, qu'est-ce que nous dit la Mishnah ? Faire teshuvah sur une mitzvah négative est beaucoup plus grave. Alors, vas-y, qu'est-ce que nous a dit ? C'est quoi la réponse ?
On parle pas de la mitzvah, on parle de l'opposé de la mitzvah. On parle alors, de la progression.
Oui, alors, et alors, en quoi ça répond ?
Donc,
c'est même pas l'opposé à la mitzvah.
On parle de sa transgression.
Voilà, oui. C'est pas l'opposé à la mitzvah. Il n'y a pas je fais une mitzvah ou je fais une avéra.
Non mais, dans ce débat-là, j'ai l'impression qu'on confond la mitzvah en elle-même de l'opposé de la mitzvah. C'est-à-dire de ne pas la faire ou de transgresser la loi.
Alors, vous allez voir la réponse qu'on va voir à la Gemara Zaken. Je répète la question, parce qu'on s'est évadé un petit peu, il y a plusieurs détails. La question que pose la Gemara Zaken. On a lu une Mishnah ensemble, qu'on a développée. Dans cette Mishnah, on a vu clairement que faire teshuvah sur une mitzvah positive, apparemment, c'est plus facile que faire teshuvah sur une mitzvah négative. C'est ce qu'on vient de dire. Quand j'ai préservé une personne n'a pas mis les tefilines, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, bon, c'est pas grave, tu fais teshuvah, on te pardonne sur place. Tu t'excuses, on te pardonne sur place. Alors que lorsqu'une personne a transgressé une mitzvah négative, il s'excuse sur place, on lui pardonnera à Kippour. Comment ça se fait ? On a posé la question à la Gemara Zaken, elle dit, mais normalement, nous, on sait toujours qu'une mitzvah positive est plus important que mitzvah négative. La preuve, une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. La preuve, une mitzvah positive génère une lumière extraordinaire. Comment ça se fait que la teshuvah d'une mitzvah positive est plus facile qu'une mitzvah négative ? Alors regardez la réponse de la Gemara Zaken, une réponse qui est très profonde. Il dit comme ça, il dit c'est très simple. Il dit pourquoi une mitzvah positive, la teshuvah est très facile ? Parce que c'est trop tard.
entre les regrets et les remords.
Non, parce qu'on ne peut pas rattraper.
On peut pas rattraper. Le regret.
D'accord. Non, au contraire.
C'est ce qu'on appelle le remords. C'est la différence entre le remords et le regret.
Alors regarde, regarde ce qu'il y a de Morzakani. C'est très simple. Tu sais pourquoi la mise à positive, la teshuva est très facile. Le fait que la teshuva est très facile, quand la teshuva est très facile, c'est un piège. Ça veut dire qu'en vérité, c'est chled, quoi. De toute façon, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Il donne un exemple. Il a par exemple quelqu'un, il a manqué le schéma. Il a oublié de faire le schéma. C'est fini. Ce schéma, il ne pourra plus jamais le rattraper. Donc le fait que la teshuva est facile, c'est pas un bien pour lui, c'est un mal pour lui. Il dit, écoute, bon, t'as raté, tu ne récupéreras plus, maintenant on pense à la suite. Qu'est-ce que je te dis? Lorsqu'on lui donne l'occasion de rattraper, on lui dit, on va t'embêter un peu, il y a un petit pour et tout, ça veut dire qu'il peut réparer. Parce qu'il a fait un dégât, mais s'il veut, il peut le réparer, ce dégât. Vous comprenez la réponse de Morazaken? Il dit, comment ça se fait qu'une mitzvah positive, c'est plus facile à réparer qu'une mitzvah négative? C'est le piège. Le fait que c'est plus facile à réparer, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a plus rien à faire. Vous savez, quand vous amenez la voiture chez un garagiste, vous amenez une voiture chez un garagiste. Deux secondes, vous amenez une voiture chez un garagiste. Et la voiture, elle est déjà vieille et tout. Et la voiture, tu lui dis, est-ce que vous pouvez m'arranger ça? Il dit, bon, ça va, bon. Il t'arrange vite fait, il dit, bon, ça, on pouvait rouler avec. Pourquoi il te dit ça? Parce que bon, de toutes les façons, la voiture est déjà tellement vieille qu'il dit, bon, allez, prends, tu roules avec et c'est tout. Alors que lorsque la voiture est encore neuve, même pour un petit détail, il va te l'arranger. Il va dire, attendez, ramenez-la moi, revenez, on va voir si ça arrangé ou pas. Pourquoi? Parce que le fait de laisser passer, ça veut pas dire que c'est rien. Au contraire. Ça veut dire que c'est tellement grave que il n'y a plus rien à faire. Et que bon, tant pis. On s'occupe plus de ça, on pense à la suite. Ce qu'il dit, c'est le Morzaken. Donc il dit, c'est quoi le piège? Nous, quand on nous a dit que la mitzvah positive, c'est plus que c'est la mitzvah positive, je demande pardon, on m'excuse sur place, on a dit, ah, on t'excuse sur place, ça veut dire que c'est facile. Pas du tout. Si on t'excuse sur place, ça veut dire que même si tu voudras perdre ton temps, tu n'arriveras pas à faire tes choix. Donc il dit, écoute, perds pas ton temps, pense à la suite. Mais ça veut dire que c'est le contraire. C'est qu'il dit, c'est le Morazaken. C'est-à-dire qu'avec ça, on comprend que transgresser une mitzvah positive, c'est beaucoup plus grave qu'une mitzvah négative. Contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre de la Mishnah. Pile le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est une notion qu'on n'a pas expliquée quand on a fait le premier cours. Donc il dit comme ça. Ah bah, l'Inyan Tshuva, enfin le premier cours, ça remonte à quoi on a fait? Non, cette notion que transgresser une mitzvah positive...
Oui, qu'on ne pouvait pas rattraper.
Non, mais que c'est plus grave parce qu'on ne peut pas rattraper. De toute façon, on l'a pas expliqué. Bon, enfin, c'est... C'est quand on le retourne au premier cours? C'était, on l'a fait à la rentrée de septembre. Ça sera. Il dit comme ça, bon, de toute façon...
On aurait pu penser justement que c'est l'inverse. Si c'était irrattrapable, j'aurais eu besoin d'un jour comme Kippour...
Eh ben non.
Au-delà des mitzvot et des averot, pour le pardonner.
Mais il peut pas te pardonner.
La preuve, c'est qu'il me pardonne.
Mais non, parce que le jour de Kippour peut te pardonner un dégât que tu as fait. Mais là, j'ai pas fait de dégâts. J'ai omis de faire quelque chose. Chaque jour, je dois mettre les tefilines. Pareil, combien de temps une personne vit? On va dire 80 ans. Ça fait combien de fois en tout pour qu'il doit mettre les tefilines?
63.
D'accord.
300.
Par 300, ça fait combien? Allez.
Le résultat.
18 000. Là, il est où?
18 000.
D'accord. Il doit mettre...
67.
Il doit mettre 18 000 fois les tefilines. On est d'accord?
18 000, bon. 20 000 fois.
À peu près 20 000. Ok, 20 000 fois. D'accord. Il doit mettre 20 000 fois dans sa vie les tefilines. Il a oublié un jour. Il n'aura plus les 20 000 fois. C'est impossible. Même s'il les met un jour 10 fois, ça change pas. Il est mieux de mettre une fois par jour. Donc il lui manquera une fois. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, ne fais pas de chouva, ça sert à rien, tu perds ton temps. Quand on a omis de positif, tu peux pas récupérer, parce que chaque jour tu dois la faire. Donc on dit, écoute, pense à la suite. Écoute, ne t'occupe pas cette fois-ci, parce que sinon après tu vas prendre la tête, tu vas oublier d'autres fois. Pense à la suite, et tant pis pour cette fois. Mais le fait qu'on me laisse pas la rattraper, c'est un piège. Vous savez, des fois on a envie de s'excuser, on dit, écoute, t'excuses pas, c'est pas grave. C'est pire. Dis ça va, c'est bon, je t'excuse, c'est bon, elle est là. Allez, c'est pire quand on dit ça. Tu sais, des fois, tu veux t'excuser, on te dit, bon, ça va, c'est bon, c'est pas grave. Mais avec un sourire, c'est pas grave, du style, j'oublierai pas. C'est pire.
Non, c'est pas j'oublierai pas, c'est que de manière, ça ne sert à
ouais,
rien.
Ouais, tout de même, ça ne sert à rien, de toute façon, tu recommenceras. Non. Donc, on va lire dans les mots de Morazaken. Ah, bah, les nyan teshuva. Mais en ce qui concerne la teshuva... Av Shemochalinlo, Ala Onesh Shemarad Mahutoit Barer, bien que Dieu va lui pardonner. Sur quoi Dieu va lui pardonner? Dans la mitzvah positive. Dieu va lui pardonner sur le fait qu'il a omis de faire une mitzvah positive. Et que quelque part c'était un signe de révolte envers un Kadosh Baruch Hu. Alors sur ça on t'a pardonné.
Voilà, de révolte quand même.
Oui.
Pourquoi?
Alors, sur l'aspect révolte, qui a expliqué à l'Admorat Zakai. Il dit que c'est vrai que l'aspect révolte est moins fort dans une mitzvah positive que dans une mitzvah négative. C'est ce que tu voulais dire, je suppose. C'est ce que tu voulais dire.
C'est une opposition.
Je demande à quelqu'un de faire quelque chose. Il l'a pas fait. D'un autre côté, je demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et il l'a fait. Dans quel cas l'aspect révolte est plus fort?
Mais là en plus, on a
dans, deux secondes. Dans quel cas l'aspect révolte est plus fort?
Quand tu fais quelque chose qui est interdit, tu le fais.
Très bien. Alors, l'Admorat Zakai, il dit comme ça. Il dit, c'est vrai que l'aspect révolte est plus fort dans une mitzvah négative, mais ça change pas que la mitzvah positive est quand même plus grave. Pourquoi? Parce que Mikol Makom Aor Nerdar, parce que la lumière est manquante. Rappelez-vous, chaque mitzvah positive que je fais correspond...
Ouais, non, mais t'as cité l'exemple des téfilim. Oh, je veux bien, ça a marqué le téfilim, c'est 20 000 fois, on a loupé une fois. Bon, les téfilim, on va dire, bon, passons, c'est peut-être pas celle que je vais louper le plus en mitzvah positive. Il y en a 248. Il y en a combien peut-être que je
tous les jours... Je ne sais pas, ce que j'ai expliqué, c'est que chaque mouvement d'ici-bas...
Donc, qui peut dire, déjà, chaque jour qui passe, j'ai fait au maximum de
mitzvah
positive que
je dois faire. Chaque mouvement d'ici-bas correspond à un autre mouvement en haut. Oui, mais... Chacun des deux, de la même manière que chacun des membres.
Oui, si c'est aussi comptable que ça, je vous dirais qu'il y a combien de mitzvot positifs qui doivent se présenter en principe à moi.
Tu as raison.
Il y en a combien que j'en fais. Et il y en a combien que j'ai loupé.
Tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on veut expliquer que
les mitzvot positifs. Je veux bien, mais le reste, tout le reste.
Combien qu'on a loupé?
Et tout le temps.
Tout le temps. Par exemple, l'imout de Torah. Étudier la Torah.
Tout le temps, voilà, c'est ça.
D'accord. Alors imagine-toi, voilà, par exemple, une personne doit étudier 100 et tant de secondes dans sa vie. Une seconde qui est ratée, elle est ratée, c'est fini, à vie.
C'est ça.
Comment c'est écrit dans la Gemara? C'est écrit...
À propos de...
Attends, c'est écrit...
Peut-être que tu comprends que c'est une seconde.
Il y a une phrase qui dit...
On ne peut pas un instant s'arrêter, quoi.
Bon, j'ai oublié, il y a une phrase...
Ben
non, il y a une phrase qui... Non, c'est pas... Oui, c'est... je vois de ce que tu veux dire, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il y a une phrase qui dit que qu'un instant, d'accord, qu'un instant dans ce monde-ci, une fois qu'il est passé, il reviendra plus. Mais enfin, j'ai oublié, la phrase m'échappe.
C'était dans le Pirkei Avot?
Non, c'est pas le Pirkei Avot, c'est la Gemara Gittin. Bon, il y a une phrase là-bas qui dit « Eavar Aïn », c'est-à-dire que le passé est passé, et le futur arrive tout de suite, d'accord? Et le présent est déjà passé. Enfin, il y a toute une phrase qui veut dire, mais en tout cas, il y a une phrase qui veut dire que on n'a pas le temps de se retourner, que le temps est passé, que le temps qui est passé ne reviendra jamais. D'accord? Le temps ne reviendra jamais. C'est ce qui veut dire ici, là-dedans, Zakai. C'est véridique comme ça. Il dit, comment ça se fait qu'une mitzvah positive, la teshuvah d'une mitzvah positive est plus facile? Comment ça se fait qu'une mitzvah positive, la teshuvah est plus facile qu'une mitzvah négative? D'un côté, c'est parce que l'aspect révolte est moins fort, c'est ce que tu voulais dire, je suppose, dans une mitzvah positive, quand je j'omets de faire une mitzvah positive, c'est quand je transgresse une mitzvah négative. Ça, c'est vrai. Mais quelque part, le fait qu'on me laisse pas m'excuser, ça veut dire que je ne pourrais pas m'excuser. Et ça, c'est plus grave. Ce qu'il dit, c'est le Morazaken. Il dit ici, Ukmaamarazal, il amène la Gemara, dans la Gemara Brachot, Al Pasuk Me'uvat le Yuchal et Taken. La Gemara Brachot, elle nous dit à propos d'une chose, Shlomo HaMeler dans Michelet, il parle d'une chose qui est tordue et qui ne pourra jamais être réparée. Là-bas, il amène l'exemple suivant. Vous savez, quand vous prenez un morceau de fer, de métal, attendez.
Vous le tordez, il ne revient pas.
Tu le tords, il ne reviendra jamais à sa place, d'accord. Mais il dit là-bas, il y a des choses que pas seulement qui ne reviendront pas à leur place, que tu pourras jamais ramener à sa place. C'est-à-dire que même si tu veux le détordre, tu ne pourras pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que de manière générale, on dit qu'il y a des choses qui sont tordues, qu'on ne pourra pas ramener, d'accord. Mais tu vas le ramener, ça sera presque parfait. Ça sera jamais parfait à 100%, mais ça sera presque parfait. Là-bas, Shlomo HaMeler, il dit qu'il y a des choses qui sont tordues, qui ne pourront jamais être récupérées. Et il dit pas c'est quoi. La Gemara Brachot pose la question, il dit, mais on connaît pas que des choses qui sont tordues, qui ne pourront jamais récupérer. Tout est récupérable. Oui? Tout est récupérable.
Tout
passe au marbre, tout est récupérable.
Pas tout.
La carrosserie, c'est récupérable.
Ouais, je crois.
Quand c'est rouillé, c'est...
Mais c'est récupérable, pas de problème. Tu peux pas récupérer? On peut pas récupérer.
La nouvelle carrosserie aujourd'hui, la nouvelle carrosserie.
On le recycle. On le recycle. D'accord.
Tu peux pas refaire la.
La carrosserie, mais tu
prends. Eh ben on le recycle, on reprend. Si on veut, on peut.
Tu vas refaire un matériau donc, de moins bonne qualité, mais tu peux faire refaire.
Donc la Gemara pose la question. Là-bas, dit comment on peut trouver un exemple d'une chose qui est cassée qui pourra jamais être réparée? Ça n'existe pas. Par définition, tout ce qui est cassé peut être réparé. On est d'accord?
Tu fais tomber un vase.
Parce que
tu fais tomber un vase.
Oui.
Tu
je récupère le verre.
Non,
je peux refaire un vase.
Tu fais tomber le vase.
Oui.
Tu vas,
les morceaux, ils sont...
En mille morceaux. Je récupère les morceaux.
Tu peux le recoller.
Non.
Attends, tu peux le recoller.
Non, je peux...
Non, attends. Tu peux le recoller. Il n'y a pas de miettes, il n'y a rien. Il y a les morceaux intacts.
Mais non, non.
Tu peux le, quand tu le recolles...
C'est quoi le verre recolles... C'est quoi le verre? D'où ça vient le verre?
Non, mais attends. Quand tu le recolles...
Le sable.
C'est le sable. Oui, quand donc je le fais au fond, c'est tout.
Non, mais le même. T'as un vase, avec des dorures ou quoi, tu peux recoller, tu le recolles. Et ça rentre bien, le truc. Les tracés sont là, tu peux pas la rattraper.
Oui. Parce que je vais... Oui. Alors, ça se répare pas en l'état. Mais ça peut se réparer.
Ça sera pas le même...
D'accord. Bah après, ça dépend de ce qu'on va l'amener. Ça peut être même plus haut qu'avant. Alors, la Gemara pose la question là-bas, la Gemara Brachot, elle dit, c'est quoi Meouvet le Yuchal Litkon? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un objet qui a été cassé qui ne peut pas être réparé? Et là-bas, justement, parce que la Gemara pose la question, la Gemara elle développe là-bas, elle dit, c'est pas logique. Il dit, vous voyez le principe du recyclage. On dit, normalement, tout ce qu'on connaît, même s'il est cassé, on peut toujours le réparer. On peut tout réparer. Ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut, mais on peut tout réparer. Et là-bas, la Gemara, elle donne l'exemple, écoutez bien la réponse de la Gemara. Elle dit, c'est quoi une chose qui est cassée qui ne peut pas être réparée? Zé Shebitel Kriyat Shema Shel Arvit. C'est une personne qui a oublié de faire Kriyat Shema du soir. Et la Gemara fait exprès de prendre un exemple qui nous a l'air banal. Parce que là-bas, dans la Gemara, elle nous dit que, elle amène l'exemple, elle dit qu'une personne, par exemple, qui a beaucoup mangé, on laisse servir le repas du soir, il s'est endormi, il se met au lit, au canapé, il dit, je me repose quelques minutes, le temps qu'il se réveille, il est à moitié dans le coltard, il va dans son lit, et c'est fini, et il se réveille, quand il reprend ses esprits, c'est déjà le matin. Il a raté le schéma de Arvit. Là-bas, la Gemara a dit, tu veux avoir un exemple de ce que Shlomo Melech a dit? D'accord? Là, et nous?
Non, mais il rigole.
Non, non, mais attends,
rigoler tous les
Non, quand même.
Là, et nous?
Moi, je sais que quand j'étais à l'Aïchiva, je me suis habitué à avoir le réflexe que je dors pas tranquille tant que j'ai pas fait Arvit. C'est un réflexe, après, on se réveille.
Tu peux faire avant de manger.
Tu peux pas?
Tu peux pas, oui.
Tu peux pas.
Ça dépend quelle heure. Tu manges, tu peux manger à quelle heure, c'est pas arrivé à l'heure.
C'est un réflexe.
Le plus difficile, c'est l'été, c'est pas le... Tu peux pas. L'été, à 11h du soir,
dans la nuit, tu
sortis des étoiles.
C'est un réflexe, tu dors pas tranquille, tu dors pas dans notre ville.
Bah non, mais je dis pas que je...
Tu peux pas la dormir à fond, là.
Hein? D'accord.
Tu dors à 10h, même l'été.
C'est en ordre, tu vas te fatiguer, t'as un coup de pompe. Vendredi soir, par exemple. Vendredi soir.
Oui, vendredi soir, tu fais cigarette. Tu vois, il faut le refaire.
Ah oui, il faut le refaire à la nuit. Alors, nous dit la Gemara là-bas, c'est un chidouche la Gemara, c'est énorme. Moi, tu veux avoir un exemple de quelque chose qui est cassé, qui peut pas être réparé? Une personne qui est obligée de faire le schéma.
Du soir.
En plus, du soir, ça me paraît bon.
Et c'est ça.
D'accord?
Ah, que tu es censé faire ça.
Oui. Alors, la Gemara, elle dit là-bas, elle dit ça, c'est... Et pour... Lucas, pourquoi?
C'est ça.
Comment ça se fait? La Nora Zaken explique pourquoi c'est quelque chose qui est cassé et qui est irréparable. Et que pour ça, on te dit que même si... Quand je l'ai fait, je voulais pas me révolter contre Akadosh Baruch Hu, je l'ai fait, je me suis endormi, j'ai craqué. C'est vrai qu'il n'y a pas l'aspect révolte dans ça. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est cassé, qui pourra jamais être réparé. Pourquoi? Il explique la Morazaken. Il dit, Av, Shenizar, Merata, Likrot, Kriat, Shema, Shel Arvit, Shacharit, Leolam. Même s'il fera, il ne manquera jamais aucun Kriat Shema. En Shuvato, Moelet, Zaken, Mashabit, El Pamachat. Il pourra jamais récupérer cette fameuse fois où il a oublié. Donc quelque part, le fait qu'on ne laisse pas faire teshuva, c'est un mal pour lui. Il voudrait faire teshuva. Il dit, mais laissez-moi, je fais deux fois. Non, je peux pas, c'est raté. Ça veut dire comme ça.
Ce sera toujours la même balance moins 20. Alors si quelqu'un d'autre le fait...
Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire.
Et si je...
Donc je suis en train de dire, pourquoi je peux faire teshuva? Ça veut dire que le fait que je peux faire teshuva, d'un côté, c'est un bien pour moi. Ça veut dire, on dit que bon, c'est vrai que je me suis pas révolté. On n'a jamais vu une personne qui s'est révoltée, qui a dit aujourd'hui je mettrai pas les tefillin. Bon, il s'est pas révolté. L'aspect révolte n'est pas très fort. Mais d'un autre côté, le problème qu'il y a, c'est que quand on a manqué une mitzvah comme ça, c'est jamais récupérable. Ça, c'est un problème. Lorsqu'une personne a transgressé le Shabbat, il a causé un dégât. D'accord? Lorsqu'une personne a transgressé le Shabbat, il a causé un dégât. Causer un dégât, ça veut dire quoi? Par exemple, il a cassé un mur, il a cassé quelque chose. Bon, ça, il peut réparer. Ça prend du temps, mais il peut réparer. Le fait qu'on le laisse réparer, même si ça prend du temps, c'est un chesed. Pour une mise à positive, on peut pas réparer. Ça, c'est un exemple de quelque chose qui est tordu, qui ne pourra jamais être récupéré.
Le Shabbat, tu l'as transgressé, tu peux pas le récupérer non plus.
Si. Parce que quand j'ai transgressé le Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai causé un dégât. Ce dégât peut être récupérable.
Oui, mais c'est pareil.
Alors que lorsque dans notre côté.
Il
n'y a pas un nombre précis. Non. Il n'y a pas un nombre précis de Shabbat. Il n'y a pas un nombre précis de Shabbat que je dois faire. Tous les Shabbats ont dit que je ne dois pas causer de dégâts. Maintenant, si je cause un dégât 10 fois, eh ben, je devrais réparer ce dégât 10 fois. Il n'y a pas de problème. Je paye. Mais par contre, quand on me demande de faire une mitzvah 100 000 fois, et que je l'ai faite 99,999, eh ben, j'ai manqué une fois. Je ne pourrai jamais le récupérer. Vu sous cet angle, une mitzvah positive, le fait que la teshuvah est plus facile, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que, on te dit, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Ça ne sera pas récupérable. Va'over à mitzvah klota.
Donc, il n'y a pas de teshuvah.
Donc, il n'y a pas de teshuvah.
Alors, pourquoi on dit qu'il y a une teshuvah?
Non. Ça veut dire que la teshuvah que tu peux faire, tu peux la faire tout de suite. Le reste, il n'y est pas. Tu vois? Ve'over al mitzvah klota asé. Maintenant, d'une dire de Razaken que d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'aspect révolte qu'il y a dans une mitzvah négative. C'est qu'étant donné que j'ai expliqué tout à l'heure que transgresser une mitzvah, c'est toujours faire le contraire de ce qu'on m'a demandé. Donc transgresser, si on me demande de faire quelque chose, la transgression c'est de ne pas le faire. Et si on me demande de ne pas faire quelque chose, la transgression c'est de le faire. Je vous ai posé la question, je vous ai dit, dans quel des deux cas l'aspect révolte est plus fort? Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Quand je transgresse, une mitzvah négative. On te dit, ne fais pas ça! Je vais le faire, d'accord. On dit, Admor HaZaken, c'est peut-être pour ça aussi que pour se faire pardonner sur une mitzvah négative, ça prend plus de temps. Il y a besoin d'un kippour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que peut-être que le dégât que j'ai fait n'est pas très grave. Et peut-être moins grave que le dégât que j'ai causé en omettant une mitzvah positive, ce que je viens d'expliquer.
Est-ce que pour autant on a fait...
Mais ce qui nous dérange...
Est-ce que c'est un manque à gagner ou c'est un dégât?
C'est un dégât.
Le fait de ne pas avoir fait
Kriyat Shema, c'est un dégât. C'est un dégât.
Non, c'est un manque.
Oui, mais c'est un manque qui a causé un dégât.
Le fait de ne pas avoir fait Kriyat Shema, c'est un manque.
C'est un manque qui a causé un dégât. Non, un dégât.
Voilà, c'est la question.
Un dégât. Non, c'est ça, le chiddush. C'est que c'est un dégât.
C'est pas un manque.
C'est un dégât qui est tellement grave qu'il est irrécupérable.
Alors c'est une avéra, presque.
Alors là maintenant.
Il compare le dégât. Il compare le dégât de la transgression de mise à négative.
Positif.
Avec le dégât de la transgression
de mise. Alors, je vais expliquer un point. Je vais expliquer un point important. Oui, c'est ça ce qu'il fait, mais je vais expliquer un point important. Quand on analyse une mitzvah et une avéra, il faut analyser deux choses. Il faut analyser l'aspect révolte et l'effet réel. C'est-à-dire comme ça. Tout d'abord, on doit analyser l'aspect révolte. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a fait la mitzvah ou la avéra.
Il voulait profiter de la avéra.
Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Est-ce qu'il voulait embêter Dieu? D'accord? Ou est-ce qu'il... Ça, c'est un premier aspect qu'il faut voir. Un deuxième aspect qu'il faut voir, c'est peu importe ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il a fait.
Il voulait profiter d'un
d'accord.
Aspect de...
Je sais pas quoi. Tu entends ma question?
Subjectif et objectif.
Voilà. Premièrement, on doit analyser qu'est-ce qu'il voulait faire. Et donc par rapport à ça, on va voir la gravité de ce que par rapport à ce que lui voulait faire. Et deuxièmement, on doit analyser qu'est-ce qu'il a fait concrètement. On dit Admor HaZaken, il dit comme ça. Il dit quand on analyse sur le plan subjectif, ça veut dire j'analyse dans quel cas l'aspect révolte était plus fort. Là, c'est évident que l'aspect révolte est plus fort quand une personne a transgressé une mitzvah négative. Je lui dis, ne fais pas, tu viens, tu le fais. Dans l'autre cas, je lui dis, bon, écoute, fais ça. J'ai oublié. Oh, j'ai pas la force, j'avais la flemme. Ça veut pas dire qu'il voulait se révolter contre moi. Ça veut dire que bon, il avait la flemme.
Mais tu le fais en d'accord connaissance de cause.
Il n'y a pas de problème, je le fais en connaissance de cause.
Non, mais quand tu te révoltes,
mais...
tu le fais en connaissance de cause. Bien sûr, ou alors tu le fais, mais tu savais pas que c'était justement aussi important de
justement
ne pas faire.
Le fait de ne pas faire... La révolte en faisant quelque chose est toujours plus grave qu'en en omettant quelque chose.
Mais la révolte, ça veut dire vraiment que tu le fais, tu sais que c'est interdit et que tu le fais presque.
Oui, je donne un exemple. Quelqu'un, il te demande, par exemple, il te dit, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu vas, tu le fais. C'est-à-dire, vraiment, c'est parti à l'encontre de sa volonté. D'un autre côté, t'as une personne qui m'a dit, écoute, je t'en prie, tu peux aller me faire une course. Je dis, quoi, tu sais quoi, il m'a pris la tête, je peux pas lui faire sa course. Tu t'es pas révolté contre lui.
Non, mais moi je parle dans l'absolu.
Oui. Dans l'absolu, je suis pas arrivé encore dans l'absolu. Là, je parle maintenant, c'est la nuance que va expliquer l'Admor HaZaken. Il dit que dans l'aspect révolte, ici l'Admor HaZaken va appeler ça la salissure des 10 vêtements de l'âme. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait une avéra, qu'on transgresse une mitzvah positive ou qu'on fait une avéra, l'aspect révolte nous salit à chaque fois. Chaque fois que je me permets, je prends des permissions par rapport à Dieu, ça fait quelque chose. Alors, l'Admor HaZaken, il dit comme ça. Il dit, par rapport à la personne elle-même, ça fait des dégâts. Et les dégâts qu'on fait par une mitzvah négative sont plus graves
sur la personne
que sur une mise à positive. Pourquoi? Parce que l'aspect révolte était plus fort. Puisque l'aspect révolte était plus fort, ça peut être la première raison pour laquelle la teshuva sur une mise à négative est plus longue que sur une mise à positive. Parce que sur l'aspect révolte, c'est beaucoup plus dur à réparer. Mais après, Admor HaZaken rajoute un deuxième point dans lequel il dit complètement le contraire. Il dit que quand on analyse de manière objective, c'est-à-dire pas par rapport à l'aspect révolte de manière subjective, mais l'aspect objectif, ça veut dire par rapport aux conséquences. Le dégât qu'on fait en omettant une mitzvah positive est tellement grave qu'il est irrécupérable. Et comme il est irrécupérable, on m'a dit, écoute, ça sert à rien d'essayer de le récupérer, tu perds ton temps. Et c'est la raison pour laquelle on ne le laisse pas le réparer, parce que tu perds ton temps. Est-ce que vous avez compris les deux réponses que j'ai données?
Pourquoi sur les mitzvahs négatives où c'est pas possible de les réparer, on n'a pas la même
chose? Non, ça, j'ai pas encore parlé de ces mitzvahs.
Non, mais on n'a pas la même chose.
Seconde. Encore une fois. La mitzvah, pourquoi une mitzvah positive, c'est plus facile à réparer qu'une mitzvah négative? Deux réponses possibles. Première réponse, puisque dans une mitzvah positive, il y a moins l'aspect révolte, donc subjectivement, c'est moins grave par rapport à l'homme, il a moins sali son âme, il s'est moins révolté contre Dieu, donc c'est réparable plus facilement. Mais on a une deuxième réponse, qui dit que de manière objective, étant donné que le dégât qu'il a fait, il devait faire la mitzvah 20 000 fois dans sa vie, il l'a fait 19,999. Le dégât est tellement grave qu'il est irrécupérable qu'on dit, écoute, ça sert à rien de le réparer, tu pourras pas le réparer. Vous voyez comment, quand on analyse de manière subjective et objective, on va arriver à deux réponses complètement contradictoires. C'est un exemple extraordinaire. Comment, quand on analyse de manière subjective, on va voir on va voir tout de suite que la mise en négative est plus grave que la positive. Mais quand on analyse de manière objective, la positive est plus importante que la négative. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai le choix entre une mitzvah positive et négative, laquelle je dois prendre,
positive.
La positive. Parce que objectivement, la positive est plus importante.
D'accord.
La Shabbat, etc. Ça, c'est le chidouche que je vous ai pour aujourd'hui.
On peut pas dire que, normalement, comme tu l'as dit, les gars, normalement, on ne peut pas être pardonné à la Mekom. On doit attendre qui pour être pardonné.
Oui.
Ça vaut pour les mitzvot positives comme négatives.
Mais comme non, mais non, non, ça te dit non.
Je sais, ça c'est la normale.
Oui.
Mais comme la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile au moment de la Mehila,
oui.
Elle ne peut pas à un homme porter à son crédit quelque chose qu'il n'a
bien
pas
sûr.
Fait.
Bien sûr, personne ne peut le faire.
Voilà.
Même Rahamim. Rahamim, il peut que te dire on ferme les yeux, on t'embête ça, etc. On pourra jamais te rajouter un crédit sur quelque chose que tu n'as pas fait.
Ça ne sert à rien d'attendre qu'il
faut. Donc ça veut dire que quelque part, transgresser une mise à positive, c'est plus grave. Parce que tu manques un crédit que tu ne pourras jamais récupérer.
Même pas Akadosh Baruch Hu peut le mettre.
Personne. Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, bon,
c'est pas grave.
On regarde pas, c'est pas grave. Mais on pourra jamais te rajouter un crédit sur une chose que tu n'as pas fait. Donc la mise à positive, le fait qu'on me laisse pas faire tes choses, le fait qu'on me dit, vas-y, c'est bon, la teshuva est accordée, quelque part, c'est plus grave. Ça veut dire qu'on te dit, bon, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire.
En gros, finalement, quand l'Echama vient ici, on attend d'elle qu'elle soit optimum sur tous ses points positifs. Chose qu'elle aura ratée.
Mais on est faillible.
Oui, les choses qu'elle a ratées.
Ouais. Tous faillibles.
Non, mais je vais leur prendre un positif. Bien sûr, c'est évident.
Chaque seconde perdue.
Fini.
Et j'ai fini. C'est une seconde de plus vers la mort.
Toute l'annulation qu'on fait
Chaque seconde perdue, c'est une seconde de plus vers la mort. Qui est irrécupérable, c'est fini. On a un nombre de secondes très précis combien de temps on va vivre. C'est prévu.
Quel est cet élément qui est plus fort que la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu et qui empêche Akadosh Baruch Hu, malgré son moment de Rahamim, de compter?
Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Jamais Akadosh Baruch Hu pourra nous compter quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est impossible. La chose la plus forte qu'on connaît, c'est les 13 attributs de la miséricorde qui nous permettent de pardonner l'impardonnable. Mais on parle de pardon. C'est-à-dire, je te pardonne. Mais on pourra jamais dire que, comme, il y a un exemple que ma mère a dit comme ça. Elle parle d'un cas, d'un enfant qui a été pris en captivité chez les nations. D'accord? Et il s'est pris en captivité chez les nations, et après, il a grandi, il est arrivé à l'âge de 20 ans, il a retrouvé ses parents. Et ses parents, ils sont venus le voir, ils ont dit, écoute, tu sais, on n'a pas le droit de manger chélèvre, on n'a pas le droit de manger de la graisse, on doit faire le shabbat, etc., etc. Et lui, il les écoutait pas. Non, on lui a expliqué, on lui a dit. Non, on lui a dit, écoutez, prenez la tête, moi, je veux pas de ces trucs-là, moi. C'est comme si, imaginez-vous, dorénavant, il y a un rabbin qui arrive un jour qui vous dit, dorénavant, la Torah demande que vous faites la gymnastique japonaise tous les matins. Je connais pas, moi, tu me prends la tête, donc j'ai pas été éduqué comme ça. Imaginez-vous, un rabbin, il dit, dorénavant, tous les matins, gymnastique japonaise. Vous allez le faire? Oh, j'ai pas été éduqué comme ça. On est d'accord? Alors, ce qu'on veut expliquer ici, c'est quoi? C'est que La Bala Gemara dit que cette personne-là, quand il va monter au ciel, on dirait qu'il était Anus. Anus, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il était un cas de force majeure. Donc, ce qu'on appelle en français une circonstance atténuante. Mais la Gemara dit là-bas, Anus, mais Keman de Avid l'homme Rinan. Mais on ne dira pas qu'il a fait. On dirait qu'il était en cas de force majeure, mais on ne dira jamais qu'il a fait misère qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on dira, bon, on ferme les yeux. En d'autres termes, en termes kabbalistiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il devrait redescendre dans notre Gilgoul. Parce qu'il avait une mission qu'il n'a pas faite.
Selon Rabbi Traïm, si quelqu'un a fait du Lashon Hara sur nous, alors on prend certaines de ces mitzvot.
Oui.
Et elles nous sont comptées pourtant.
Elles nous sont comptées au niveau mérite.
Au niveau comptable. Mais alors c'est ça qu'on
tente pas. Pas la
Mais moi, ce que je veux dire, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je rentre dans le jeu d'une mission. Quand une personne est descendue en bas, il a une mission, il a donné une mission. Après qu'il a des bonus au milieu, ça c'est comme une personne dans son travail, il a des bonus qu'on peut lui donner à sa paye. Ça c'est des bonus, tout ça.
Un et un, ça fait pas toujours deux dans ce cas-là. Parce que il y a la mitzvah, oui. Et il y a aussi la kavana et tout ce que je peux mettre dans cette mitzvah. C'est-à-dire que je peux faire peut-être une fois, quelqu'un qui a peut-être mis les défis une seule fois dans sa vie, qui a plus de mérite. Oui. Il y a plus de portée que quelqu'un
qui... Non, mais on a dit les téfilines, tu l'aimais,
c'est pas
la... Moi, pour moi, c'est évident. Ce qui peut le mieux exprimer, c'est ce que cette Gemara a dit. Elle dit, Anous, oui, il était en cas de force majeure. Mais Keman, David, l'homme Rinan, on dira jamais qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait sa mission. Ça illustre bien expliqué. Qu'avec tout le cas de force majeure qu'il était, on lui pardonne, on lui dit, il n'y a pas de problème, etc. Mais tu diras jamais qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc le fait qu'on lui a dit c'est pardonné, quelque part, c'est un mal. Il aurait voulu dire, mais je vous en prie, laissez-moi, je fais deux fois demain. Non, trop tard. Vous voyez ? Donc le mitzvah, conclusion...
Une mitzvah supplémentaire autre, ça ne sert strictement à rien.
Ça sert dans les cas qui ont été prévus par la Torah.
Oui.
Mais dans les cas qui n'ont pas été prévus par la Torah, non.
Donc à la rigueur, tu ne refais même pas la deuxième habitat.
Si. Parce que c'était prévu par la Torah. Parce que dans les corbanotes, c'était comme ça. Oui. Dans les corbanotes, quand on avait au maximum jusqu'à la prochaine zone.
J'ai vraiment loupé faute de...
Ben voilà, il a loupé le chemin, par exemple. Oui. Il s'est réveillé en retard, il s'est réveillé à midi, il a loupé le chemin.
Au Mintra, t'as eu le temps de faire...
Au Mintra, en hiver, voilà. Il n'a pas eu le temps de se retourner, c'était déjà la nuit. Oui. Et je le ferai à 4h, je n'ai pas eu le temps de se retourner.
C'est une négligence,
quelque part. Non, c'est pas forcément négligent, si vous voulez... C'est pas une négligence, c'est que tu...
Dans les pommes,
T'es oublié. T'es oublié.
C'est une négligence.
Oui.
Donc c'est une négligence, est-ce que je peux faire une deuxième...
Oui, parce que le seul cas dans lequel on n'a pas le droit de faire, c'est quand j'ai fait exprès de pas le faire.
Alors c'est jamais exprès.
À ce propos, on fait d'abord la tila qui se présente à soi, c'est-à-dire Arvid,
bien sûr.
Ou alors on fait
d'abord...
Non,
Arvid, Arvid.
Non, de toutes les façons, on fait deux fois l'amida.
Oui, mais la première, c'est pour la...
La première, c'est toujours pour l'actuel. Mais souvent, c'est la même, quoi qu'il en soit.
Après, on fait...
Mais c'est la même.
On refait l'ancienne.
On refait la même.
Oui, mais la première, la Kavana, elle est pour...
La Kavana,
En Kavana, la première, c'est l'actuel, et la deuxième, c'est le rattrapage.
Bien sûr.
Ah non, ça reste.
On fait la même.
Mais Zratachem, après... Désolé qu'on n'a pas fait les résumés aujourd'hui.